Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La parole de Dieu apporte une véritable espérance dans notre monde tourmenté. C'est pourquoi nous vous exhortons à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui seul a le pouvoir de combler les cœurs.
Aujourd'hui, Yann et notre invité Alain continuent leur discussion sur le livre de Job.
Le livre biblique de Job nous permet de méditer sur le sujet de la souffrance. La dernière fois, nous avons vu que même si Job a crié sa douleur et ses doutes, il a tout de même mis son espérance en l'Éternel. Il était convaincu que s'il devait recevoir des réponses à ses interrogations et une consolation à ses peines, celle-ci viendrait de Dieu et non d'ailleurs. Toutefois, l'une des choses qui a consterné Job est le fait que Dieu soit resté silencieux. Job a alors cru que Dieu était indifférent à son sort, ce qui a ajouté à son incompréhension. Alain, qu'en dites-vous ?
Il est vrai que Dieu ne se manifeste pas tout de suite à Job. Toutefois, vers la fin du livre, dans les chapitres 38 à 41, Dieu finit par répondre à Job.
Que dit donc Dieu à Job ?
La réponse de Dieu est longue et mérite réflexion. C'est pour cela que nous allons consacrer probablement deux émissions à l'étudier. La première chose que je voudrais dire est que cette réponse peut étonner.
Et pourquoi dites-vous cela ?
Parce que Dieu n'éclaircit pas directement les questions de Job. Il ne lui explique pas pourquoi il a dû passer par là. Il ne lève pas le voile sur les mystères de la souffrance de l'innocent. Du moins pas beaucoup.
Avant de demander ce que Dieu a dit alors, je voudrais savoir comment Job a réagi suite à ce discours. Je peux imaginer qu'il a été déçu. Et pour nous aussi, une telle réponse ne risque-t-elle pas de nous laisser insatisfaits ?
Job ponctue le discours de Dieu d'une première déclaration. Je cite donc la Bible. Job répondit alors, « Je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je ? Je mets donc la main sur la bouche. J'ai parlé une fois. Je ne répondrai plus. Et j'ai même insisté, une deuxième fois, je n'ajouterai rien. » Nous pouvons constater l'humilité de Job. Il réalise que dans les propos qu'il a précédemment tenus, il est allé trop loin. Il s'est hasardé à affirmer des choses qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Après la deuxième partie du discours de Dieu, Job dit entre autres « Oui, j'ai parlé sans comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Et un peu plus tard, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. »
Job déclare, me semble-t-il, qu'à travers toutes ses expériences suite à l'intervention de l'Éternel, lorsqu'il lui parle, sa connaissance de Dieu a grandi, son expérience de Dieu a été enrichie, ce qui lui procure un grand bien et il s'en réjouit.
Oui, Job finit par accepter de ne pas connaître toutes les réponses à ses questions. Il accepte que Dieu soit le maître. Seul, il maîtrise tout, rien ne lui échappe. Il se contente de la révélation que l'Éternel lui accorde et il laisse avec une entière confiance Dieu s'occuper des mystères de la vie.
Mais comment Dieu amène Job à cette foi sereine alors qu'il était auparavant si révolté ?
Dans la première partie de son discours, Dieu passe en revue divers aspects de l'univers qu'il a créé. Il évoque les étoiles et le soleil, il parle de la terre avec ses montagnes et ses océans, ainsi que des phénomènes météorologiques. Dieu montre le monde de la nature avec sa grande diversité d'êtres vivants. Et dans tout cela, Dieu ne cesse d'interroger Job, lui demandant si lui arriverait à dompter ou à diriger tous ces éléments naturels, et s'il arriverait même à les comprendre. Écoutons quelques extraits de ce long discours.
« Où étais-tu quand je posais les fondations du monde ? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Es-tu parvenu jusqu'aux sources qui font jaillir les mers ? Où t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? As-tu visité les greniers qui recèlent la neige et les dépôts de grêle, les as-tu vus ? Fais-tu paraître les constellations en leur temps ? Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires ? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné ? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit ? Serait-ce toi qui donnes la puissance au cheval ? Serait-ce grâce à ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il déploie ses ailes en direction du sud?
Je comprends que Dieu cherche à remettre Job en question. Mais quel en est le but? Quel est le rapport avec l'insouffrance de Job?
Je pense que dans ce premier discours, Dieu n'évoque pas directement les problèmes liés à la souffrance. Mais il répond plutôt aux propos durs et accusateurs prononcés par Job.
Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à Job?
Lorsque nous sommes confrontés à la souffrance et à l'injustice, beaucoup, par leurs questions et raisonnements, semblent vouloir dire, peut-être inconsciemment, que si eux dirigeaient l'univers, ils le feraient bien mieux que Dieu. C'est pourquoi, dans son discours, Dieu désire enlever ses prétentions, et par la réaction de Job qui confesse « Je mets donc ma main sur ma bouche », nous constatons que Dieu a parlé à son cœur, Job a compris le message.
Pouvez-vous expliquer davantage ce message?
Oui, Dieu rappelle à Job et à chacun d'entre nous que nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire, tandis que Dieu, lui, ne connaît pas de limites. Dieu donc énumère toute une liste de choses dans le monde naturel dont Job ignore complètement le fonctionnement. Dieu relève également tous les domaines du monde naturel où Job n'exerce aucun pouvoir. Job doit constater qu'il sait peu de choses et qu'il accomplit peu de choses.
Mais je ne vois toujours pas le rapport avec la question de la souffrance qui nous préoccupe, particulièrement celle de l'innocent.
La leçon est celle-ci. Puisque nous comprenons relativement peu de choses sur le monde naturel, alors que nous le voyons et pouvons même l'écouter à travers le vent, les animaux, par exemple le toucher, comment alors pouvons-nous comprendre le monde spirituel, qui est non matériel, dans lequel toutes les réponses liées à l'existence du mal et de la souffrance résident? Au lieu donc d'affirmer des propos sans fondement, nous devons reconnaître nos limites et faire confiance en Dieu qui, lui, maîtrise toutes choses.
Voulez-vous décourager par là ceux qui effectuent des recherches scientifiques sur notre création ou d'autres qui désirent réfléchir à ces questions profondes d'ordre philosophique?
Non, pas du tout. Quand Dieu dit aux hommes de dominer la terre, cela signifie qu'ils peuvent faire de la recherche afin de mieux comprendre et maîtriser l'univers qui les entoure. Cependant, Dieu avant tout nous invite à davantage d'humilité et à reconnaître que notre raisonnement humain est limité. Nous ne pouvons tout comprendre.
Nous devons bientôt terminer notre discussion, mais vous nous avez seulement parlé de la première partie du discours que Dieu adresse à Job. Que peut-on dire de la deuxième? Dieu ajoute-t-il quelque chose?
Nous parlerons de cette deuxième partie du discours la prochaine fois. Mais en attendant, je peux dire que Dieu parle de deux monstres, le Béhémoth et le Léviathan. À travers eux, Dieu nous permet d'avancer un peu dans notre compréhension de la souffrance, du mal et de la mort. Une fois encore, nous n'éluciderons pas tous ces mystères. Le but n'est pas de tout comprendre, mais d'avoir une foi sereine et forte dans un monde où le malheur est si présent.
Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment revêtu de splendeur, recouvert de majesté, tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Cherche un peuple qui veut faire ta volonté.
Vous venez d'écouter le cantique « Mon Seigneur et mon Dieu » chanté par Joël et Vincent North. À présent, Jean-Yves va poursuivre ses méditations bibliques portant sur la parabole de la brebis perdue, selon l'évangile de Luc au chapitre 15, versets 4 à 7, qu'Hélène va nous lire.
« Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Et quand il a trouvé, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. »
Il n'est pas difficile d'imaginer des circonstances où une personne ne peut absolument rien faire pour résoudre une grave difficulté ou pour se tirer d'une situation périlleuse. Cette personne a besoin d'être secourue. Pensez par exemple à quelqu'un qui ne sait pas nager et qui se trouve emporté par les flots d'une rivière en crue. Impuissant, il a besoin qu'un autre le retire des eaux, il a besoin d'un sauveur. Dans la parabole de la brebis perdue, le berger agit en sauveur, car la brebis ne peut d'elle-même retrouver son enclos. Figée par la peur, elle s'expose à tous les périls des lieux déserts. Mais le berger vient la secourir, et les dangers qui menaçaient sa vie sont dorénavant réduits à néant. Elle a trouvé refuge sur les épaules de son sauveur. Nous avons déjà appris que la brebis de cette parabole représente chacun d'entre nous et que le berger représente Jésus-Christ. Mais en quoi donc avons-nous besoin d'un sauveur? Et en quoi Jésus représente-t-il ce sauveur? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, nous lisons qu'un ange est venu annoncer à Joseph, le fiancé de Marie, que sa future épouse se trouvait enceinte par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'ange lui a annoncé « Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus signifie « l'Éternel sauve ». Beaucoup en Israël attendaient un sauveur militaire ou politique pour libérer le pays de l'occupation romaine. Mais l'ange nous montre que Jésus est venu pour sauver d'un danger plus grave encore, le péché. Le péché, rappelons-le, est tout ce que Dieu qualifie de mauvais. Tout ce que nous faisons, disons ou pensons que Dieu tient en horreur. Le péché provoque tant de malheurs, de dégâts dans la vie des autres comme dans notre propre vie. Il nous sépare de Dieu, tout comme la brebis éloignée de son berger. Le péché nous conduit à la mort éternelle, un châtiment bien mérité, auquel nul ne peut échapper par ses propres efforts. Nous sommes sans force devant la puissance du péché. Nous n'avons ni les moyens, ni les ressources nécessaires pour nous tirer d'une pareille situation. Nous avons besoin d'un sauveur. Or, Jésus est ce sauveur. Par sa mort sur la croix, il a porté nos péchés. Il a subi à notre place le châtiment divin. Grâce à ce sacrifice, nous sommes sauvés de la colère de Dieu et pouvons, réconciliés avec lui, marcher dans sa communion. Également sauvés de la mort, au lieu de demeurer éternellement dans le séjour des morts, nous ressusciterons pour vivre éternellement avec Dieu.
Confrontés aux conséquences du péché, de la réalité et de la mort, nous ne pouvons que confesser notre impuissance et notre besoin d'un sauveur.
Jésus est notre sauveur, et nous lui rendons gloire pour le salut qu'il apporte. Nous le louons pour sa miséricorde envers nous.
À présent, nous vous disons au revoir.
Au revoir, que Dieu vous bénisse.